Donc c'est un tiers-lieu qui accueille des porteurs de projets qui ont un intérêt social, économique, environnemental ou autre, mais qui ont du mal à trouver des locaux de travail à un prix abordable.
Je suis humain, tapissier. C'est le bruit de la porte, tout à fait. C'est le retour au dépôt.
Mélange entre artisanat, artistique, culture.
Voilà, typiquement le genre de matériel sur lequel je travaille.
L'autre, il ouvre vers l'extérieur. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Encore plus avec des gens qui font pas du tout ce qu'on fait.
C'est important pour moi de parler français tous les jours. Connaître les gens, les différentes cultures.
C'est marrant de se dire qu'il y a un parquet d'église ici.
Bonjour, je m'appelle Gérald Bouchon, journaliste pour Lyon Demain, média engagé pour l'écologie, le vivre ensemble et la solidarité. Et nous sommes Bobbies depuis l'été 2024. Rassurez-vous, rien de méchant. Nous avons été parmi les premiers à nous installer dans les anciennes usines Bobst à la soie, à la limite de Lyon et Villeurbanne, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Bob. Avec ma consoeur Inès Crimi, on est allé promener notre micro dans les bureaux, ateliers et autres laboratoires à idées. Et on vous propose un podcast en immersion pour mieux comprendre cet univers temporel entre le patrimoine et le futur. N'hésitez pas à partager ce reportage, disponible sur liondemain.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez, c'est parti.
Je m'appelle Élise, je suis responsable de la communauté des occupants et des occupantes qui sont installés ici au Bob.
On va employer le tutoiement parce qu'ici tout le monde se tutoie.
C'est vrai.
Pourquoi ?
Parce que c'est une ambiance de travail, mais c'est une ambiance conviviale aussi. Et comme on passe beaucoup de temps ensemble, c'est vrai qu'on invite un peu des familiarités qui font aussi que c'est une ambiance sympa.
Explique-nous où on est exactement ici.
Là, on est au Bob, le bâtiment ouvert aux bifurcations. Donc c'est un tiers-lieu qui accueille des porteurs de projets qui peuvent être des structures associatives, des artistes, des artisans et artisanes, des jeunes entreprises. Toutes ces personnes qui portent des projets qui ont un intérêt social, économique, environnemental ou autre, mais qui ont du mal à trouver des locaux de travail à un prix abordable. Donc c'est des acteurs qui se retrouvent souvent assez éloignés des cœurs de ville petit à petit, parce que c'est plus on va loin des villes, plus les locaux d'activité sont abordables. Et nous, chez Plateau Urbain, on pense que c'est intéressant de garder ces créatifs et ces créatives en cœur de ville et de leur faire de la place.
Alors, puisqu'on a employé le mot, Plateau Urbain, c'est quoi ?
Plateau Urbain, c'est une coopérative d'immobilier solidaire et d'urbanisme transitoire. En fait, notre cœur de métier, c'est de faire vivre des bâtiments qui auraient été vacants. Donc, ça peut être des bâtiments dont le propriétaire est privé ou public, peu importe, mais c'est des dents creuses en ville, dans des métropoles, donc Paris, Lyon, Bordeaux en ce moment, des métropoles où il y a une pression immobilière, où les gens ont du mal à trouver des locaux d'activité, et pourtant, il y a des bâtiments qui sont vides, parfois 2, 3, 4, 5 ans. Nous, on trouve que c'est dommage, donc les propriétaires nous les confient et on attribue les locaux à des porteurs de projets pour un temps donné. Et selon les caractéristiques des bâtiments, on essaye d'installer une mixité d'activités. Donc il peut y avoir de l'hébergement d'urgence, il peut y avoir des lieux de diffusion culturelle, d'accueil de public, des lieux de fête. On peut aussi privatiser des espaces pour de l'événementiel. Ça, c'est propre à chaque site.
Alors là, on est devant une ancienne usine. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est ?
Oui, c'est un site industriel. C'était les usines Bobst et Thyssen qui étaient implantées ici. Donc c'était un groupe industriel qui est peu connu du grand public parce que ça s'adresse à d'autres industriels. Et le groupe Bobst est parti pour des locaux plus neufs, plus adaptés.
Juste avant le Covid.
Voilà, c'est ça. Et en 2021, la métropole de Lyon a racheté l'ensemble du site en se disant qu'il y aurait forcément un intérêt, qu'il fallait garder ce lieu-là entre les mains de la collectivité. Mais le projet urbain pérenne n'est pas encore défini du tout. Et donc plutôt que laisser ces bâtiments vides, la métropole les a confiés à plusieurs gestionnaires. Donc c'est un site un peu poupée gigogne en fait. L'étape 22D qui est le site d'urbanisme transitoire porté par la métropole de Lyon est divisé en sous-ensembles dont le Bob, mais il y a aussi Grand Plateau autour des mobilités douces, il y a deux sites d'hébergement, il y a un pôle autour de l'économie circulaire, du réemploi, du tri des déchets, et puis il y a un dispositif de découverte des métiers de l'industrie pour des scolaires. Donc c'est plusieurs sous-ensembles dans ce site étape 22D qui donne une richesse aussi, une diversité d'activités, de l'activité économique, artistique, culturelle, culturel, de l'hébergement.
On va découvrir tout ça.
Ouais.
On rentre alors, comment on fait pour rentrer là dans le bâtiment là ?
C'est un digicode. Le principe, c'est que les occupants et occupantes ont le code d'accès du bâtiment et peuvent venir dans les locaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a une certaine autonomie. Ils n'ont pas besoin que nous, l'équipe Plateau Urbain, soit sur place.
Alors on rentre ici, là, dans une espèce de grande verrière, là.
Ouais, c'est le hall d'accueil qu'on appelle aussi l'atrium parce qu'il y a cette grande verrière qui donne de la lumière. C'est là qu'on a mis la table de ping-pong qui a été d'ailleurs généreusement mise à dispo par les Restos du Cœur qui sont un occupant ici. La table de ping-pong, c'est un peu l'accessoire phare des tiers-lieux. Ça paraît un peu cliché, en même temps c'est hyper efficace pour la rencontre, pour la mixité, pour donner un côté un peu sympa aussi, faire des pauses qui soient chouettes. Ça fait des bons moments de rigolade à la pause déj. En général, chez Plateau Urbain, quand on ouvre un tiers-lieu, une occupation temporaire, on essaye toujours de penser des lieux qu'on va pas commercialiser, qui seront pas loués, mais qui seront des espaces communs, parce que c'est via ces espaces communs que les gens en fait peuvent se rencontrer. C'est tout bête, mais ça marche. C'est se faire un café dans une salle où tous les autres occupants se font un café, et c'est là qu'on papote. Pour le déjeuner, on fait réchauffer son tube et du coup on se met à table avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées. Ici au Bob, on a l'atrium avec la table de ping-pong, on a la salle commune avec une cuisine qu'on a aménagée tout en matériaux de réemploi. C'est des vieux bureaux qui étaient sur le site et qu'on a transformé en cuisine l'été dernier.
Ça, c'est un peu l'ADN hein, aussi de Plateau Urbain, c'est de faire du réemploi.
Bah oui, parce que écologiquement ça a du sens et puis parce qu'en termes de budget, évidemment, on essaye d'aménager un bâtiment dans une économie de moyens puisqu'on est là de manière temporaire. Donc on fait un peu avec les moyens du bord, avec les compétences aussi des équipes. Et il se trouve que là, on avait un collègue en alternance qui avait été cuisiniste. Donc c'était hyper pratique pour aménager une belle cuisine. Et en vrai, c'est un peu le nerf de la guerre, une salle de pause qui est sympa pour faire les déjeuners, pour prendre une pause café.
Donc quand on rentre, la salle de pause à droite, l'espace commun là en plein milieu.
Oui, tout à fait. Et fun fact, les cloisons de la salle de pause qui sont entièrement vitrées n'existaient pas quand on a récupéré le bâtiment. C'est des cloisons qu'on a installées qui venaient d'un autre site qu'on a fermé à Montreuil et c'était pile poil la même hauteur sous plafond. Du coup, on a rapatrié ces cloisons du site de Montreuil, on les a installées là et en plus elles sont ce petit côté floral un peu avec des motifs. Ça fait un truc sympa parce que quand on a récupéré le bâtiment, cette cloison de la salle commune, elle était pleine, on voyait pas à travers quoi, c'était un mur. Du coup, en fait, c'était beaucoup moins convivial. Et maintenant, de pouvoir voir à travers, voir qui est dans la salle de pause, qui joue au ping-pong et tout, ça fait une circulation aussi, une dynamique qui est très chouette.
Avant d'aller à la rencontre des résidents, explique-nous et des résidentes, explique-nous comment on accède à ces lieux, comment on a un pied à terre ici.
Ouais, alors, Plateau Urbain, quand on ouvre un lieu, on publie un appel à candidature en ligne. En fait, on a une plateforme sur notre site Plateau Urbain sur laquelle on a beaucoup de personnes inscrites, je crois 14 000 ou 15 000. C'est des gens qui veulent être au courant de chaque fois qu'on ouvre un nouveau bâtiment. Et donc, c'est sur cette plateforme qu'on publie l'appel à candidature, c'est-à-dire on donne la localisation du bâtiment, ses caractéristiques, le prix des espaces. Et les personnes peuvent cliquer, remplir un bref formulaire qui permet de poser une première candidature. Donc nous, on recueille toutes ces candidatures et quand on récupère le bâtiment, on organise des journées de visite où toutes ces personnes qui ont candidaté viennent voir les lieux, viennent repérer les espaces qui pourraient les intéressés. Et ensuite, on sélectionne ces candidats et candidates sur un certain nombre de critères qui sont à la fois des critères techniques. Il faut que l'activité donnée soit compatible avec les locaux qu'on a. Donc, on ne peut pas faire d'accueil de public si le lieu n'est pas ERP. S'il y a une machine qui nécessite une certaine puissance électrique qui n'est pas sur site, voilà, ça va être bloquant, etc. Il y a un critère un peu de quelle est l'activité exercée par le candidat ou la candidate. On essaye, dans la mesure du possible, de valoriser des activités qu'on trouve intéressantes, bénéfiques, qui ont un impact positif, social, environnemental, écologique, de réemploi, etc. Et puis, il y a un critère important qui est l'envie de contribuer à une dynamique collective, c'est-à-dire qu'ici, dans l'esprit, on ne vient pas juste poser son ordi le matin, travailler dans sa bulle, repartir le soir. L'idée, c'est de contribuer à une dynamique globale de rencontres, de convivialité, d'entraide, de partage, de compétences, de matériel, etc. Évidemment, chacun a ses obligations professionnelles, ses contraintes familiales, de vie perso et tout, mais on essaye de valoriser une implication collective, un partage dans la mesure du possible.
C'est pas un coworking, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, on peut le qualifier de tiers-lieu.
Voilà, c'est pas que le coworking c'est mal, je veux dire c'est deux façons un peu de voir son lieu de travail, et nous on s'adresse à des gens qui ont besoin d'espace pas cher, qui ont une contrainte économique forte, mais aussi on s'adresse à des gens qui ont besoin de collectifs. Typiquement, on a pas mal de personnes qui travaillaient de chez elles ou dans un café, parties par là, et qui se sentaient assez isolées. Et ici, elles viennent trouver un collectif de travail et des personnes qu'elles vont revoir tous les jours en venant bosser, comme n'importe quel collègue qu'on a dans son équipe. Tandis que dans certains coworking où il y a des postes de travail flexibles, par exemple, chaque jour, c'est une nouvelle personne qui vient prendre son bureau pour une journée. C'est pas la même dynamique de rencontre, tout simplement.
Les gens qui nous écoutent se disent combien ça coûte ?
Ah ah ! Alors, ça coûte 12,50€ du mètre carré par mois pour les bureaux et 4€ du mètre carré par mois pour les halles. Grosso modo, il y a des petites variations selon les espaces, mais l'ordre d'idée, c'est ça. Nous, ce qu'on essaye chez Plate Urbain, c'est pour tous les sites qu'on gère, de proposer des prix 30 à 70% inférieurs au prix du marché classique. Si on ne peut pas proposer cette décote-là, on considère que ce n'est pas intéressant d'ouvrir le bâtiment.
Alors, on a parlé des halles, on y va ?
Ouais, allons-y.
Donc là, on va changer d'ambiance. Hein.
Tout à fait. On change de température aussi. Là, ça sent un peu moins, mais l'hiver, il faisait assez froid dans les halles. C'est un espace qui n'est pas chauffé, puisque c'est un espace où il n'y a pas d'activité de bureau. C'est des activités de stockage, de logistique, de fabrication. Donc, il peut faire assez froid l'hiver. Mais là, ça y est, on arrive sur une période de l'année.
Décris-nous les lieux, là, parce que c'est assez exceptionnel quand même, cette ambiance-là.
Ouais, alors on a 13 000 mètres carrés de halle avec une hauteur d'à peu près 10 mètres sous plafond au centre. C'est des halles industrielles, donc c'est un espace qui est gigantesque. Quand on a pris le bâtiment et que tout était vide, c'était vraiment impressionnant. On s'imaginait faire genre des roller derby, des matchs de basket et des énormes fêtes, quoi.
Enfin, il y a des clips qui ont été tournés ici.
Ouais, il y a des clips qui ont été tournés ici. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel en plein cœur de ville. Enfin, là, on est à Villeurbanne, c'est quand même un quartier assez dense. Et d'un coup, on arrive ici, on passe une porte et c'est un espace hyper spacieux. Il y a un peu comme des bruits qui résonnent. Et puis, il y a ces piliers métalliques tout peints en jaune, qui donne aussi un petit cachet.
Et des ponts roulants, ça marche, ça, ces ponts roulants,
ouais, ils sont réputés fonctionnels, mais pour les actionner, il faut savoir s'en servir, il faut un contrat de maintenance, il faut un cahier de maintenance aussi, c'est quand même assez précis comme cadre d'utilisation, parce que c'est assez risqué, c'est des ponts roulants qui soulèvent plusieurs tonnes, donc il ne faut pas se les faire tomber sur le pied, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont assez chouettes, ça me fait un peu penser à des trucs portuaires. Une sorte de chantier naval où il y a ces énormes grues pour soulever les conteneurs des paquebots là. Comme il y a les bruits de mouettes aussi, ça fait toute une ambiance.
Dis-nous ce qu'on voit, là, il y a des vieux parquets.
C'est quoi, mais ça là, il y en a dans tous les sens. Parce que plus on a d'espace, plus on stocke des choses en se disant que ça va servir un jour. Et c'est assez vrai. Depuis qu'on a installé ici l'équipe Plate Urbain, on a récupéré des matières et des matériaux divers et variés un peu partout sur le site. Des cloisons, des dalles de lumière, des chaises, etc. qui finissent toujours par nous resservir, puisqu'on aménage au fur et à mesure les espaces. Et là, ce qu'on voit, c'est du parquet d'église qu'on a récupéré du côté de Made in Past, qui est un occupant à l'autre bout des halles. C'est un parquet un peu vermoulu, on ne sait pas encore trop ce qu'on va pouvoir en faire, mais on espère l'utiliser pour faire des petites terrasses ou des jardinières ou du mobilier pour l'extérieur. En tout cas, il a une âme assez sympa. C'est marrant de se dire qu'il y a un parquet d'église ici.
Décris-nous un petit peu les lieux, là, parce qu'il y a des gens qui ont construit des choses, là, en fait, qui ont construit un petit peu leur univers, c'est ça ?
Ouais, c'est une ruche un peu où chacun a fait son petit nid. Parce qu'en fait, nous, plateau urbain, quand un candidat se présente pour les halles, on parle de surface au sol et d'accès à des coffrets électriques, en gros. Mais l'espace est tel quel sur la dalle industrielle. Et c'est à chaque occupant ou occupante de faire son cloisonnement. Donc chacun y va un peu avec sa méthode. Il y a des cloisons OSB, il y a des grilles d'espace vert. Il y a voilà, un peu de tout. Il y a des gens qui ne se cloisonnent pas du tout. ça dépend aussi de ce que demande l'assurance en général.
Quels sont les, avant d'aller les voir individuellement, quels sont les principaux acteurs là, qui sont ici ?
Alors, dans les halles centrales ici, on a plutôt des petites surfaces. Donc, c'est plutôt des artisans artisanes, des personnes qui travaillent à leur compte. On a un charpentier, on a un tapissier, on a deux personnes qui travaillent le métal pour faire du mobilier, des aménagements, escaliers, rambardes, vérandas, etc. Il y a l'atelier Emmaüs pour former des personnes sur les métiers du travail du bois, qui font des magnifiques objets et qui restaurent aussi du mobilier, c'est très très beau. On a une occupante qui fait de la scénographie, des dispositifs de jeux, d'animation pour enfants en bois. Et on a au fond des halles les ateliers mutants, qui sont un collectif d'artistes, artisans, scénographes, régisseurs, multiples casquettes. Et puis après, d'un bout à l'autre des halles, on a deux gros porteurs de projets qu'on avait identifiés dès le début de l'histoire du Bob, qui sont de ce côté-là les Restos du Cœur, qui ont 3000 m² pour leur plateforme logistique, c'est-à-dire que c'est le cœur ici de le cœur logistique de l'activité des Restos du Cœur dans le Rhône. Ici arrivent toutes les marchandises qui sont ensuite dispatchées dans les différents lieux de distribution. Donc c'est là c'est un fourmillement de Fenwick, de palettes, de gerbeurs dans tous les sens pour déplacer les colis alimentaires. Et puis de l'autre côté, on a Made in Past, qui est une entreprise plutôt de l'économie circulaire pour revaloriser sur des chantiers tout ce qui est revalorisable. Donc ils font de la dépose propre de tout ce qu'il y a sur le chantier pour le revendre, le remettre en circulation. Et donc là, c'est un entrepôt où arrivent toutes les matières à revaloriser. Donc il y a un peu comme ici notre stock. Il y a des dalles de moquette, il y a du mobilier, il y a des luminaires, il y a des tableaux électriques, il y a un peu de tout.
Et là, on entend des machines qui tournent, on peut y aller, on va aller les voir.
Oui, on va aller voir. On va voir, là c'est Numa, donc Numa il a une entreprise qui s'appelle Décorian et il fait des banquettes, sièges, canapés, lits, donc il a beaucoup de mousse, beaucoup de tissus, beaucoup de bois et c'est un beau savoir-faire avec des tissus, enfin on pourrait dire que c'est un lot assez coloré quoi. Coucou. Je reviens te voir, accompagné du journaliste national Gérald.
Bonjour, ça va ? Salut. Tu vas bien ? Ça va, merci. Je suis Numa, tapissier. Voilà, je répare, mais je fais surtout du neuf depuis quelques années. Voilà, en soi, je fais du sur-mesure, des choses qui ne sont pas très habituelles, comme ce que je suis en train de faire, un petit pouf pour une petite fille, par exemple. Elle choisit tout, les couleurs, la forme.
Donc ici, c'est quoi ? C'est ton lieu de travail, en fait ?
De travail, c'est ça, oui. Travail, atelier, oui, voilà. Atelier, là où on prépare, où on stocke les matières premières. Et c'est là où on fait la conception, la réalisation de nos produits. Mon lieu de travail, il y a plusieurs parties. Il y a la partie menuiserie, où on fait tout ce qui est bois, la partie bois. Ensuite, on a la partie découpe de mousse en collage. Et l'atelier couture avec des coupes de tissus. Et voilà, et là, on arrive à la fin du produit. Produit fini. Produit fini, ben c'est des canapés, des têtes de lit, des poufs, des sommiers, on fait aussi. Voilà, c'est nos produits phares.
Qu'est-ce que ça t'apporte, le Bob ?
Le Bob, ben déjà, c'est une proximité par rapport à chez moi. J'habite pas très loin, on est bien situé, on est bien placé, on est en centre-ville. Ça, c'est hyper, hyper plaisant et pratique pour nous. Ensuite, il y a un super, super collectif. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'espère que ça va pouvoir continuer dans le temps et il devrait y avoir plus d'initiatives dans ce sens-là. pour vous montrer, là j'ai fait des galettes de chaises, mais sur mesure, voilà, je fais pas des trucs qu'on peut acheter à Leroy Merlin ou Ikea, tout est sur mesure. Ça c'est des gabarits, on vient de faire un snack par exemple, ça c'est un sommier, voilà les sommiers, ça, je commande les sommiers, je les monte. Et ensuite, on les tapisse, on fait du sur-mesure.
Et t'étais où avant ?
À la Taz, au carré de soie, aux anciennes usines de la soie. Et c'était très, très pratique, très sympa aussi, mais voilà, il y a un promoteur qui est passé par là. Et du coup, on a dû quitter les lieux.
Ici, tu penses que c'est vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel que tu as trouvé ici ?
C'est exceptionnel, c'est introuvable. C'est introuvable, un tel endroit, tel lieu, tel volume, à proximité, en plein centre-ville. Plein centre-ville, oui. Pour de tels ateliers, c'est vraiment un centre-ville. On est hyper bien situé, le périph' à 2 minutes, les semis peuvent rentrer, c'est... C'est magique.
Si on veut te retrouver en ville, on peut te retrouver aussi en ville.
Hein. Oui, vous pouvez nous retrouver en ville, oui. On est au 26 rue Moncey, SARL des Corians. On est à côté de la place Bas-d'Orient. Voilà, là c'est le lieu, le showroom.
Merci.
C'est moi. C'est moi qui vous remercie d'être passé.
Là, on a encore des espaces qui sont libres, hein, qui peuvent être exploités. Là.
Oui, on a encore des espaces disponibles entre 40 et 700 mètres carrés dans les halles. Il y a encore de la place. Dans les halles, il y a peu de turnover. En général, une fois que les gens sont installés là et qu'ils ont passé du temps à faire leur cloisonnement, ils restent le temps du projet. Souvent, déménager un gros atelier, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est pas comme dans les bureaux où on change de place son ordinateur, quoi. Donc là, les gens qui sont là restent pour l'instant. Et on accueille de nouveaux porteurs de projets, on espère. Pour accueillir des gens dans les halles, c'est toujours un peu plus long que dans les bureaux parce qu'il y a pas mal de questions techniques à discuter sur les besoins en puissance électrique, les fréquences de livraison, la taille des accès dont on a besoin, les types de matières stockées aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de réglementation et de sécurité pour le bâtiment. On peut pas stocker n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. Donc c'est des choses qui peuvent être parfois bloquante. Là, on a le foyer Notre-Dame des Sans-Abris qui stocke du mobilier. Donc, typiquement, il y a rarement du monde des équipes du foyer. C'est vraiment là que le foyer stocke tous les meubles qui vont servir à faire des grandes ventes solidaires plusieurs fois dans l'année. Ils avaient déjà un entrepôt, mais qui était trop petit.
Là, on a une association qui est intéressante, là.
Ouais, c'est Gamelle Pleine. C'est une association qui permet d'aller vers les personnes très précaires, notamment des personnes qui vivent à la rue, par l'intermédiaire des animaux qu'elles ont avec elles. On se rend compte que souvent des personnes qui sont à la rue, qui ont un chien ou un chat, sont d'autant plus exclues et précarisées parce que ça les empêche d'accéder par exemple à de l'hébergement, d'accéder à certains lieux de convivialité, d'accueil. Et puis, bah, on observe qu'il y a des gens qui vont se priver de déjeuner pour pouvoir acheter des croquettes pour leurs chiens, etc. Donc en fait, en amenant de la nourriture pour les animaux de ces personnes-là, ça permet de les alléger déjà d'une certaine difficulté, mais aussi de créer du lien, d'éventuellement les réorienter vers des dispositifs sociaux, d'accompagnement. C'est une manière de faire solidarité qui n'est pas hyper courante. Enfin, moi, je ne connaissais pas avant qu'ils arrivent ici. C'est très chouette. C'est une belle équipe de bénévoles qui font des maraudes plusieurs fois par semaine.
Et donc, et ça, c'est un petit peu leur base arrière, hein. Finalement, leur zone de stockage,
ouais,
j'ai envie de
dire. Oui, carrément, c'est la base arrière, c'est là que sont stockés tous les dons de nourriture et aussi quelques accessoires, des paniers pour chiens, etc. Et donc les bénévoles se retrouvent ici, font les maraudes, donc distribuent la nourriture. Ça leur permet aussi d'avoir un coin au chaud quand ils reviennent après une maraude d'hiver. C'est sympa d'aller dans la salle commune prendre un petit thé chaud pour débriefer plutôt qu'être... je crois qu'avant ils stockaient dans un garage chez des particuliers, donc ils étaient à l'étroit et en plus c'était pas hyper confortable pour les bénévoles après les maraudes. Donc ici ça leur permet de se développer et puis de continuer à avoir des équipes bénévoles sur le terrain.
C'est le bruit de la porte, tout à fait. C'est le retour au dépôt. Je m'appelle Pierre-Jean Erhardt et je suis le gérant de la société Pierre et Jardin. installé au Bob depuis presque un an, bientôt. C'est mon dépôt, comme dit paysagiste, je stocke tous mes matériaux, je stocke mes machines, je stocke un peu de tampons pour les prochains chantiers. Puis c'est notre base vie, c'est là qu'on se prépare le matin.
Ton activité, c'est quoi là ?
Paysagiste, je mets tout en œuvre, les moyens physiques, matériels, financiers pour la réalisation de projets chez les clients particuliers en général.
Que tu as trouvé d'intéressant ici dans le lieu ?
L'espace, la disponibilité, puisque j'ai un petit passé un peu trouble avec la métropole, parce que je me suis fait exproprier de la rue Antoine Prima qui a été saisie pour l'agrandissement du pôle Pixel à Villeurbanne. Et donc ça tombait bien de se retrouver ici. Donc c'est un projet que j'ai accueilli à bras ouverts.
Décris-nous un petit peu les lieux là.
On est dans les grandes halles, on est dans la halle 3. J'ai à peu près 200 mètres carrés où je stocke tout le matériel qui est utile au travail d'un paysagiste. On a de l'outillage, l'outil à main, l'outillage manuel, du bois, des végétaux, plein de petites choses qui sont utiles à notre quotidien.
Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans cet espace commun ?
Ben, le partage d'expérience, partage des différentes compétences de chacun, hein, puisque aujourd'hui je suis encadré avec un menuisier, un tapissier, un serrurier, un artiste aussi, Malak. Des croisements qui sont utiles dans notre activité, qui peuvent être utiles. J'ai travaillé avec Salvatore à côté. On a un projet avec Steinbrücker aussi sur la menuiserie. Et puis Nouma, c'est un gars que je connais, je l'ai emmené avec moi, puisqu'il était avec moi rue Antoine Prima avant.
Et quoi tes projets ?
Par rapport à ici, conserver le lieu le plus longtemps possible, hein, dans les 15 prochaines années, qu'on soit toujours ici. C'est un projet. On en parlera à Bruno Bernard début avril.
On va inverser, on va sortir ça, on va charger la première palette. On peut la rentrer, ouais. Il faut qu'on vide la palette avec les plots. Et ouais, donc par exemple, le projet demain, tu vois, j'ai tous les pots. Les bacs qui sont là sur les palettes. J'ai terreau, bille d'argile, couche drainante. Donc ouais, demain c'est un chouette projet sur une habitation récente. Et puis tout, avec arrosage automatique aussi pour la gestion des végétaux, pour qu'ils se développent un petit peu. Surtout si les gens s'absentent quand même. C'est comme des zones qui sont assez exposées. Donc attention à vous.
Hello ! Y a quelqu'un ? Coucou !
On rentre où là ?
On rentre dans l'espace des ateliers mutants, qui est un espace assez incroyable. Ah bah, y a Jérôme dans son container. Et alors il y a plusieurs containers avec des personnes à chaque fois. Je suis un peu intimidée. Je suis au micro de la presse internationale. Salut, ça va ? Oui, ça va.
Bonjour, alors moi je suis François et je fais partie des ateliers mutants. Et ben les ateliers mutants, c'est une structure associative qui regroupe une douzaine de personnes qui partagent leur lieu de travail en ayant aménagé des espaces de bureaux et d'ateliers partagés.
Tu peux nous décrire un petit peu le lieu là, comment ça se passe ?
Du coup on est sur le site de 22D à l'intérieur d'une halle industrielle. On est dans un espace qui fait à peu près 500 mètres carrés dans lequel on a aménagé des espaces de bureaux pour pouvoir travailler en position statique en hiver. Du coup ça nous permet d'avoir des espaces de bureaux qu'on peut chauffer, qui sont à base de structures d'Algeco qu'on a un peu retransformé pour améliorer le confort. Et puis après, on a du coup, ça c'est des espaces de bureaux qui sont dispersés un peu dans la halle. Et puis après, on a des espaces plus de construction ou de petits ateliers qui sont en extérieur autour des espaces de bureaux avec pas mal d'outillage de partout. Et puis après, on a des espaces qui sont un peu isolés, cloisonnés, qui sont vraiment les espaces dédiés à la construction, avec un atelier dédié au métal et un atelier dédié au travail du bois.
C'est quoi les métiers alors qui sont exercés ici ?
Il y a une certaine diversité. On a des gens qui sont dans le domaine artistique, on a un sculpteur, on a une designeuse, on a des gens qui sont plus dans des domaines en rapport avec des domaines techniques du spectacle vivant. On a des gens qui font de la conception d'équipements d'art numérique. On a quelqu'un qui fait de la production d'œuvres d'art numérique. On a quelqu'un qui fait de la construction, fabrication et réparation de matériel audio. On a des gens qui font de la construction de décors. Enfin voilà, c'est assez varié. On a quelqu'un qui fait aussi plutôt du travail d'élagage. Donc voilà, mélange entre artisanat, artistique, culture.
Partager des lieux, ça vous permet aussi de partager autre chose, des idées ?
Ouais, alors en tout cas, l'envie, c'était de pas être chacun dans notre coin, dans notre petit atelier. On a tous des parcours qui sont assez différents, mais en tout cas, l'envie de mutualiser des espaces à la fois de par la capacité de pouvoir partager des outils, mais aussi parce qu'on est intéressé par les fonctionnements collectifs et les organisations collectives horizontales. Donc du coup, il y a à la fois un côté très fonctionnel, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir deux fois la même machine, et puis un deuxième mode de fonctionnement qui est plus, enfin, un deuxième point qui est plus vraiment lié au mode de fonctionnement et de la façon d'apprivoiser la façon dont on travaille. Alors là, on est dans l'atelier métal et on a une machine qui nous permet de couper du métal qui s'appelle une scie fraise. Comme on peut le voir, c'est une machine qui fait du bruit, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les ateliers sont séparés des espaces de bureau pour justement avoir la capacité de travailler dans un bureau en même temps que la voisine ou le voisin est en train de fabriquer une structure métal.
Ça sent bien l'huile en refroidissement.
Tout à fait.
Typiquement le genre de matériel sur lequel je travaille. Donc voilà, des machines un peu anciennes. Et qui... voilà. Donc celle-là, elle n'est pas très juste, donc il va se passer des choses dessus. Jérôme, je m'occupe d'un atelier de maintenance électronique audio. On rénove un peu tout ce qui est... Tout ce qui est effectivement audio pour les musiciens, les studios, les choses comme ça.
Raconte-nous un petit peu l'ambiance ici.
Eh ben, l'ambiance s'installe tout doucement parce qu'on a traversé les mois d'hiver difficilement, comme tout le monde. Et puis bah, là, l'idée, c'est que ce soit un peu plus collégial, que ça fasse un peu plus groupe.
Tu as plein d'outils, là, je vois des oscilloscopes, je vois plein de choses.
C'est ça. Ouais, bah là, il y en a une partie d'ailleurs qui est partie, enfin qui bouge parce que je fais des interventions dans les studios aussi.
Salut Julie.
Eh ben, je suis Julie Digard, je suis peintre et je suis arrivée à Bob il y a 3 semaines, un truc comme ça. Je suis toute nouvelle.
Tu fais quoi ?
Peinture et j'utilise beaucoup de textile. Du coup, quand je peins, j'utilise de l'acrylique. Mais il y a aussi plein de fois où la couleur des tissus et les matières vont m'intéresser et vont être pour moi comme de la peinture. Des fois, je vais travailler sur des toutes petites peintures dans un rapport un peu intimiste avec la personne qui la regarde. Et des fois, je vais faire des œuvres plus monumentales. Voilà, donc il y a aussi un jeu un peu d'échelle dans mon travail.
C'était quoi ton besoin en locaux ?
D'avoir un espace où, si possible, il fait pas trop froid l'hiver. Parce qu'avant, j'étais aux usines Taz et où l'hiver et l'été, c'était vraiment des extrêmes en termes de température. Et là-bas, c'était plutôt... on était assez seuls. On ne rencontrait jamais les autres gens. Il y a ça qui m'a un peu plu ici, la question du collectif. Et aussi, on peut y aller, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, il y a du monde qui est là. Et même juste déjà de rencontrer, de voir des têtes dans les couloirs. Pour moi, c'était un peu nouveau. Et ça, j'avais un peu envie de ça. J'avais envie que ça change là-dessus. De l'environnement de travail, quoi.
Ça t'apporte quoi, l'échange avec des gens qui font pas forcément la même activité que toi ?
L'autre, il ouvre vers l'extérieur. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Encore plus avec des gens qui font pas du tout ce qu'on fait. Je trouve ça bien d'être avec des plasticiens, mais je trouve ce qui me plaît aussi ici, c'est qu'il y a des assos, il y a des artisans. Il n'y a pas une sorte d'entre-soi qui peut être, je trouve, ennuyeux.
Ok, on te laisse bosser alors ?
Bah ouais.
Tu fais quoi là en ce moment ?
Là, je viens d'avoir plein de tissus qui m'ont été livrés pour un projet sur Tarare. Et il va falloir que je mesure tous ceux que je n'ai pas encore étiquetés. Donc ça va être un peu long. Mais voilà, je vais faire ça.
Merci beaucoup.
Mais de rien. À bientôt.
On a changé de lieu là, Élise. On est où exactement ?
Là, on est dans le bâtiment E. C'est le bâtiment de bureau principal et c'est la porte d'entrée du Bob. C'est là qu'on était tout à l'heure au rez-de-chaussée avec les espaces communs. Là, on est au premier où il y a les espaces de bureaux. Il y a un deuxième étage aussi avec des espaces de bureaux. Ce qui est intéressant avec le bâtiment E, c'est qu'il y a beaucoup de petits espaces de 10, 15, 20 mètres carrés. Et c'est des espaces qui sont très demandés, notamment par les artistes qui aiment bien avoir leur bulle, un peu de création. Souvent des gens qui bossaient chez eux, chez elles, avant. Et donc qui accèdent un peu à leur premier bureau, premier atelier. Mais voilà aussi des artistes qui étaient potentiellement dans d'autres ateliers avant, qui devaient bouger et qui apprécient d'avoir leur petite bulle et en même temps un accès direct aux espaces communs quand ils et elles ont envie d'avoir plus de collectifs. C'est aussi pour ça qu'on a recloisonné pas mal de plateaux qui faisaient 100 et quelques mètres carrés parce qu'on savait que des très grandes surfaces de bureaux ça intéresse plus grand monde. On préfère les petits espaces.
Tu nous emmènes où là ?
Là, je vous emmène autour des bureaux E116, E117, E120. C'est un coin avec des artistes. C'est un peu le hasard qui a fait ce regroupement. On a Youssef qui est dessinateur, illustrateur, Marie qui est artiste, créatrice textile, et Razal qui fait aussi pas mal de textiles et notamment de la broderie. Elle vient de terminer une expo dans une galerie à Lyon, donc elle a été un petit peu moins là que d'habitude, mais c'est une des personnes qui vient très régulièrement. Tous les jours, elle est là, elle brode. C'est un des ateliers les plus paisibles. Salut, ça va? On vient te dire bonjour et je suis avec Gérald qui est journaliste, tu sais, pour Lyon Demain, oui. Au rez-de-chaussée. Et on fait un tour des ateliers pour capter des sons, des paroles, avoir des témoignages des personnes qui travaillent ici. T'es en pleine broderie?
Alors moi, c'est Razaleh Bahirahi, artiste plasticienne iranienne. J'ai commencé mon travail depuis 2010. Je suis venue en France de février 2016. Là, depuis, c'était en septembre, début septembre que je suis venue au BOP.
Décris-nous un petit peu ton univers.
Un petit cube 10 mètres carrés. Je suis contente d'être là avec cette équipe, l'ambiance, nouvelles collègues, tout ça.
C'est à la fois une bulle, mais c'est aussi un espace où on peut rencontrer du monde, c'est ça?
Oui, je suis étrangère. Et il faut que je travaille. Je connaisse les gens, parler avec les gens, parce que c'est pas ma langue. Entre les Français, les étrangers, c'est important pour moi de parler français tous les jours, connaître les gens, les différentes cultures.
T'as quoi comme projet, là?
J'avais une expo personnelle. C'est fini il y a quelques jours. Et après, je prépare pour une autre expo, cette fois en Iran, après quelques années. Et là, je viens de commencer.
Alors, on te laisse terminer, alors?
Oui, merci beaucoup.
Moi, c'est Marianne. Je suis étudiante en Master 2 à l'École d'architecture de Lyon. Et je suis au BOB là, depuis septembre 2024. Et je fais mon projet de fin d'études sur le site.
Mais du coup, tu fais quoi? C'est quoi l'intérêt pour des étudiants architectes d'être ici, dans ce lieu?
Ce qui est vraiment bien déjà, c'est que c'est quelque chose qui est super proche de l'école d'archi, donc on peut venir souvent. Ça nous a par exemple permis en début d'année de faire une permanence architecturale où on a rencontré les occupants, compris un peu comment ça fonctionnait, avec plateau urbain, en tout cas l'urbanisme transitoire, pour ensuite dessiner notre projet. Il y a un autre avantage, en fait, moi je suis dans une section qui s'appelle expérimentation collaborative, et du coup l'idée c'est de faire concrètement des choses aussi. Et donc c'est des supers occasions pour organiser des workshops. On en a déjà organisé un sur la place du village en tout début d'année pour faire un aménagement. Ensuite, un deuxième autour des terres de chantier d'excavation. Et on en prépare un troisième sur les teintures végétales. Ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment chouette parce que ce serait pas dans tous les sites qu'on peut tester des choses un peu comme ça. L'autre chose qui est importante, c'est en tant qu'architecte, enfin que futur architecte, réfléchir aux entre-deux, aux phases de transition. Et justement, à quel point on pousse la transition, c'est quelque chose de super intéressant et important à changer, en tout cas dans les pratiques architecturales. Voilà pourquoi c'est chouette de travailler au BOB cette année.
Vous allez faire quoi là maintenant, après les espaces extérieurs?
La prochaine étape, là, ça va être de faire un atelier de teinture végétale pour faire un drapeau et une ombrière. Pour les aménagements des espaces extérieurs. Et de manière concrète, ce sera tout pour cette année. Et ensuite, il y aura le projet papier qui, pour ma part, se développe plus dans les halles, mais qui restera du projet papier.
C'est un beau terreau d'expérimentation, le BOB?
Ouais, vraiment. Il y a plein de portes ouvertes. En général, si on propose une idée, on peut la concrétiser, donc on a de la chance.
Élise, ici on est dans un lieu qui est un petit peu central pour le BOB. Ici
ouais.
On est en fait chez Plateau Urbain, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Parce que Plateau Urbain, c'est pas uniquement un service numérique, quoi.
Ah bah non.
C'est du physique.
C'est une centaine de collaborateurs et collaboratrices répartis en France, essentiellement à Paris, un petit peu à Lyon, un petit peu à Bordeaux. En fait, chaque fois que Plateau Urbain ouvre un lieu, il y a au moins une personne sur le site au quotidien pour animer le lieu, gérer le bâtiment d'un point de vue technique, réglementaire, installer les personnes dans les espaces, etc.
C'est qui l'équipe, là, alors?
Ici, il y a Cyril, Aurélia, Thomas, Laurent et moi. Et donc, on travaille ici pour que tout le monde soit bien, pour que le bâtiment soit bien maintenu, qu'il y ait un lien qui se développe avec le quartier, avec les associations, avec les voisins, voisines. Faire parler du lieu, le faire connaître à toutes les personnes qui recherchent des espaces de travail et qui ne nous connaissent pas encore. Parce qu'en vrai, on n'est pas forcément très connus, notamment à Lyon. Historiquement, on est plutôt implanté en Ile-de-France. Voilà, donc là, c'est notre bureau d'équipe où on est là quotidiennement. Et puis, on a aussi des collègues qui sont rattachés au siège à Paris, mais qui vivent à Lyon et donc qui passent télétravailler ici. Donc, on retrouve une bonne ambiance d'équipe. Et puis, on a choisi ce bureau aussi parce qu'on a une vue sur plusieurs entrées du site. Et comme il y a souvent des gens perdus, ça nous permet de les repérer au loin et d'aller à leur rencontre, de descendre les chercher. Voilà, et puis on voit la place du village qui est le lieu qu'on va aménager là au printemps pour pouvoir profiter du beau temps à l'extérieur.
Aujourd'hui, on n'a pas le beau temps, mais on peut quand même y aller.
Ouais.
On y va?
On peut. La boîte à clés qui est un accessoire indispensable. Des gens qui font du Airbnb, ça c'est pas bien, mais des gens chez Plateau Urbain qui veulent avoir un accès partagé à un espace. Donc là, par exemple, pour notre bureau d'équipe, bah, on a une boîte à clés. Et il y a certains occupants qui louent un espace et quand ils peuvent pas faire 15 doubles, ils mettent une boîte à clés. Par exemple, Copain, qui est au rez-de-chaussée, qui a un bureau et qui fait des distributions alimentaires, c'est une équipe de bénévoles et donc c'est jamais les mêmes bénévoles quasi. Donc plutôt que perdre la clé ou devoir se la faire passer, ils mettent une boîte à clés. C'est tout bête.
Allez, on redescend. Là, on est de retour dans le lieu commun. C'est quoi? C'est un trombinoscope là. Il y a tous les occupants qui sont représentés, c'est ça?
Ouais, c'est un plan du site et un trombinoscope en même temps. C'est en fait toute la signalétique, on l'a créée pour le Bob avec le studio Jeudi Midi, qui est un studio de création graphique. Et c'était important pour nous dans le hall d'entrée, qui est l'entrée principale où tout le monde arrive, d'avoir un endroit informatif qui permette à la fois de se situer dans les lieux, parce que les 16 000 m² de bâtiment, c'est labyrinthique, il y en a un peu dans tous les sens, sur plusieurs étages, avec des couloirs, des accès un peu inattendus. Et en même temps, on voulait montrer les gens qui sont là, qui travaillent. Parce qu'en fait, quand on est ici dans le hall, on peut pas se rendre compte de tout le monde qu'il y a. En fait, il y a une centaine de personnes sur site potentiellement, mais en fait, on s'en rend pas compte parce qu'il y a plein d'espace. Et donc, on a voulu mettre sur le trombinoscope au moins une photo et un prénom des personnes qui sont là, et puis le nom de leur structure éventuellement. Ça permet de retrouver les personnes plus facilement, et puis... En fait, il y a plein d'occupants et occupantes qui sont installés ici depuis un certain temps et qui nous disaient oh, « Non, mais il y a des gens, je les croise depuis 6 mois et en fait, je sais toujours pas leur prénom, c'est trop la honte, on pourrait pas avoir un trombinoscope pour retenir mieux. » Donc, ça remplit plein de fonctions. Ça sert à la fois aux gens déjà installés ici et à la fois à des visiteurs, visiteuses qui arrivent et qui ont besoin d'un premier niveau d'information. Ah, il y a un endroit des oiseaux.
Alors, Élise, là, on est sur un lieu en devenir. Où on est, là?
Ouais. On est sur la place du village, qui était un parking, et on le déparkingise. C'est un mot qui n'existe pas, mais l'idée c'est que on l'interdit aux voitures, avec plus ou moins de succès, mais on essaye de l'interdire aux voitures, c'est dur de changer les habitudes, pour en faire un lieu piéton, une place du village, donc qui remplit cette fonction traditionnelle de place du village, qui est de se rencontrer et d'avoir un endroit où papoter, prendre le café, profiter du soleil. On a vécu un premier été sur cette place du village, mais sans qu'elle soit vraiment aménagée. Et là, le but, c'est que pour le deuxième été, on en prenne possession. Donc, on a lancé un projet d'aménagement de la place du village qui implique les occupants et les occupantes. Donc, il y a des groupes pour faire du jardinage, pour s'occuper des espaces verts, pour construire du mobilier, des tables, des chaises, pour faire de la signalétique, pour faire du marquage au sol, faire par exemple une grande marelle ou des choses comme ça. L'idée, c'est que ce soit un lieu de convivialité où on se retrouve entre occupants et occupantes du Bob, mais aussi avec les publics voisins, notamment les personnes du centre d'hébergement. Juste à côté, on a les mamans avec enfants en bas âge qui sont hébergées à la maison de Combrousse d'Habitat Humanisme Rhône. Et donc, une des idées, ce serait que par exemple, les familles puissent venir ici pour partager des moments de jeu avec les enfants, qui est un espace un peu plus spacieux. Il y a un point de restauration aussi qui est mis en place par ATD Carmonde avec le projet L'Archipel des Métiers. Donc ça apporte aussi une couche de convivialité, parce qu'évidemment, avoir un lieu pour manger, pour acheter des bons petits plats, ça rajoute aussi quelque chose de très sympa, ça rend le site plus vivant. Et donc ATD va s'installer dans la maison du gardien qui est en train d'être aménagée. On a créé aussi des super racks à vélo pour encourager les personnes qui viennent en vélo et leur donner un bon lieu d'accrochage. Donc c'est des barrières jaunes bien flashy qui étaient dans les halles qu'on a récupérées, qu'on a installées, enfin que Laurent a installées, hein, pour être précise. On a le parklet qui est un module en bois qui était à l'école d'architecture de Lyon, l'ENSAL, qui a été ramenée ici par des étudiantes de Master 2, Marianne qu'on a entendu tout à l'heure. Et au cours d'un workshop, elles l'ont réinstallée ici. Et donc ça donne un lieu où les gens peuvent s'asseoir, prendre leur café, fumer une cigarette, etc.
Et puis on a la nature.
Évidemment, on a la nature. Ça peut paraître un peu en friche, mais on aime bien ça en même temps, qu'il y a un peu de la nature folle, qu'il y ait de la place pour toute la biodiversité, tous les petits insectes qui vivent là et qui avaient pris possession des lieux avant que nous on arrive. Là, on a des bonnes surprises. Il y a des jonquilles qui sont sorties au printemps, on ne savait pas qu'elles étaient là, par exemple. Et puis, du coup, on entend beaucoup d'oiseaux. Il y a des chenilles processionnaires, une biodiversité qu'on aime moins. Et là, du coup, on est en lien avec la métropole qui met en place des pièges, parce que c'est hyper dangereux, notamment pour les enfants, d'avoir des chenilles processionnaires. Mais à part ça, bah là, on voit que le printemps arrive, quoi. Il y a, toutes les feuilles reviennent. On a Florian des ateliers mutants qui a taillé deux énormes bancs dans des troncs d'arbres qu'il avait récupérés. Donc ça, c'est déjà une amélioration. On a des fleurs qu'on avait plantées l'année dernière qui commencent à ressortir. Il y a un tilleul au-dessus de l'entrée, là. Donc mon objectif cette année, c'est de pouvoir faire des tisanes. L'année dernière, j'ai raté le coche. Donc cette fois, c'est bon.
Il y a des lieux un peu atypiques. Il y a un chalet suisse, il paraît.
Oui. Oui, oui, ça c'est une salle un peu mystérieuse qu'on n'utilise pas du tout au quotidien, qui est une pièce aveugle qui était décorée un peu à la manière d'un chalet suisse, qui devait être un lieu de retrouvailles et de négociations à l'époque de l'usage industriel. Et nous, c'est juste un lieu qui fait rire tout le monde maintenant.
Alors pour finir la discussion, Élise, là on peut s'asseoir ici sur un espace qui est un petit peu particulier, qu'on ne voit pas à la radio mais que tu vas nous décrire.
Ouais, c'est des bancs assez incroyables qui ont été créés par Malakou, qui est un occupant ici du Bob. Il a l'atelier Malak, qui est son studio de création. Et Malakou, en fait, il a réutilisé des panneaux de signalisation qu'on avait démontés au Bob parce qu'ils n'étaient plus vraiment d'actualité. Ça disait par exemple « Danger, il est formellement interdit de franchir la barrière automatique ». Et en fait, il n'y a plus de barrière automatique, par exemple. Donc on a démonté tous les panneaux et on allait les jeter. Malakou les a vus et a dit « Bah, je vais en faire des bancs ». Et donc c'est incroyable, on a des bancs en panneaux de signalisation et en barrières jaunes, les mêmes barrières jaunes des Halles qui ont servi pour faire les racks à vélo. Et c'est assez confortable en fait des panneaux parce que c'est très lisse et donc ça donne une super touche d'originalité. Et c'est un beau démonstrateur de toute la créativité et du talent technique de Malakou qui m'impressionne beaucoup pour ma part.
Pour conclure, comment on pourrait définir un bobby ?
Un bobby, c'est une personne qui vient travailler au Bob et qui apporte sa touche, sa contribution de toutes les manières possibles et qui est heureux ou heureuse d'être là, on espère. Sous mon